Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
Avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
L'ensemble de nos peuples sont évidemment fatigués. Fatigués, anxieux, anxieux par la situation sanitaire. Et on doit tenir avec de la bienveillance et de l'exigence. En étant aussi proportionné dans les efforts que nous demandons. Ne jamais demander des choses qui viendraient en quelque sorte fragiliser encore davantage tel ou tel. C'est aussi pour ça qu'en janvier dernier, je n'avais pas voulu faire un confinement. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui nous tenons avec un pass sanitaire, mais sans certaines restrictions qui sont décidées par ailleurs. Et donc il ne s'agit plus d'enfermer, il ne s'agit plus d'utiliser les méthodes que nous avions il y a un an quand nous n'avions pas le vaccin, mais de continuer les gestes barrières tels que rappelés par le gouvernement, d'accélérer et de renforcer la vaccination pour celles et ceux vulnérables qui n'ont pas encore eu recours à celle-ci, et accélérer l'ouverture au rappel vaccinal.
Il ne s'agit plus d'enfermer, et cette phrase évidemment sera fortement commentée. Les auditeurs auront la parole tout à l'heure, mais comme la conférence de presse de M. Véran n'est pas achevée, Amandine, on va rester évidemment sur les infos du jour.
Et on entendait à l'instant Emmanuel Macron qui défendait la position de l'exécutif et ses nouvelles annonces qui sont en train donc d'être égrenées. La rédaction d'RTL reste mobilisée pour vous expliquer tout ça. Odile Pouget, un point d'abord sur les vaccins. Ouverts donc à tous pour cette troisième dose à partir de 18 ans, et le ministre de la Santé annonce une carotte, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de passe sanitaire si on ne fait pas cette troisième dose.
La troisième dose devient obligatoire si vous voulez avoir votre passe sanitaire, et il faudra qu'à partir du 15 janvier, pour les 18 ans et plus, cette dose de rappel soit faite pour bénéficier du passe sanitaire. On sait que pour les plus de 65 ans, c'était à partir du 15 décembre. Là, pour les plus de 18 ans, tout le monde sait donc le 15 janvier. Et puis, il y a l'histoire des tests aussi, tests anti-Covid, qui ne seront plus valables que 24 heures au lieu de 72 heures pour les antigéniques et pour le PCR. Donc 24 heures de validité pour pouvoir bénéficier de son pass sanitaire. C'est un message pour tous les gens non vaccinés, évidemment.
On apprenait que l'Agence européenne du médicament approuvait le vaccin Pfizer pour les enfants de 5 à 11 ans. Et à l'instant, le ministre de la Santé, Olivier Véran, dit que la France, bien sûr, y réfléchit, mais ce ne sera pas avant 2022, pas avant janvier, donc, Benjamin.
Oui, parce que pas avant janvier, il faut voir, parce qu'on va tomber en pleine campagne présidentielle. Et par exemple, Marine Le Pen est totalement hostile à la vaccination des plus jeunes. Donc ça va faire débat forcément et sur le terrain politique.
Mais troisième dose pour tout le monde, au-delà de 18 ans, ça représente combien de personnes? 25 millions, me dit Ludovic Vandekerkov.
25 millions de personnes, de Français, aujourd'hui, sont éligibles à cette dose de rappel.
Et ça, c'est possible techniquement.
On a ces vaccins.
Oui, mais il y a une organisation. C'est-à-dire qu'il faut mettre 25 millions de personnes qui travaillent.
Il faut ouvrir les centres de vaccination qui ont été fermés, ça c'est sûr. Il y a toute une organisation,
quand même.
Bien sûr.
C'est qu'on est aujourd'hui. Les vaccinodromes vont être ouverts.
Absolument. Oui, mais c'est-à-dire que 25 millions de personnes, on est aujourd'hui le 25 novembre. Le 15 janvier, c'est exactement dans 50 jours. Nous sommes d'accord. Donc 25 millions divisé par 50, et vous voyez le nombre de gens qu'il faut vacciner par jour.
Mais vous nous dites, les vaccinodromes.
C'est ce que Olivier Véran devrait annoncer, en tous les cas, c'est ce qui était dans les tuyaux. C'est qu'on ouvre à nouveau des centres qui ont été fermés. Et je vous rappelle aussi, Pascal, que tout de même, il y a des pharmaciens maintenant qui peuvent le faire.
C'est
il y a d'autres professions. Et les médecins généraux. Et même
c'est
des dentistes
avec nous. C'est pas 25 millions, mais 19. Il y en a 6 millions qui ont déjà fait.
On est à 19 millions aujourd'hui.
Professeur Grimaldi, sur cette histoire de passe sanitaire qui ne va s'autodétruire si on ne fait pas cette troisième dose à partir du 15 janvier, nous disait Odile, c'est quoi? Du coup, finalement, on est dans une quasi-obligation vaccinelle.
Oui, c'est pas exactement la carotte, comme vous disiez, c'est plutôt le bâton.
Oui, ça dépend dans quel point de vue on se place.
C'est-à-dire qu'en gros, on presse pour aller vers l'obligation vaccinale sans tout à fait l'obliger complètement, puisqu'on dit, si vous ne voulez pas, vous êtes comme un rédhibitoire, mais là, dès que vous êtes dans un lieu collectif, un café, un restaurant, un cinéma, la SNCF, vous devez avoir un test négatif de moins de 24 heures. Donc ça pousse encore à la vaccination.
Et ça,
ouvertement, c'est-à-dire que ce n'est pas une tromperie, c'est évident que c'est une pression maximale sur faites-vous vacciner.
Si les gens vont pas faire des tests tous les jours.
J'ai fait un petit calcul, c'est 400 000 personnes par jour.
Oui, c'est 400 000 par jour.
Donc c'est pas rien, 400 000 personnes par jour à vacciner en 50 jours.
Actuellement, Pascal, on en est à une moyenne de 200 000 vaccinations par jour. Donc il faut passer au double.
Alors Olivier Véran a réagi sur ce chiffre effectivement de 400 000 vaccinations quotidiennes.
Nous allons ouvrir, rouvrir ou amplifier les centres de vaccination existants, et ce, dès ce week-end, car la vaccination en rappel pour les adultes est ouverte à compter de ce samedi, et vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur les plateformes de prise de rendez-vous en ligne pour réserver vos créneaux.
Voilà, Olivier Véran, sans doute les plateformes qui vont être prises d'assaut au deal. Alors, les Français avaient un peu anticipé tout ça. On a enregistré des records ces derniers jours, hein, notamment
sur Doctolib. Il y a eu des records ces derniers jours de prises de rendez-vous. Je crois qu'on était à 270 000 prises de rendez-vous hier. Donc, c'était vraiment assez, assez énorme, en effet.
On ne peut pas aller faire une troisième dose sans prendre un rendez-vous chez son médecin, en pharmacie ou dans un centre aussi. Enfin, juste très concrètement.
Bah, si, on peut passer. Si vous pouvez passer chez votre pharmacien, vous avez votre passe sanitaire, vous dites voilà, je suis vacciné, j'ai un schéma complet de vaccination depuis 5 mois. Et si c'est possible, votre pharmacien vous prend.
C'est important de le dire, le pharmacien, il le fait. Alors, en revanche, je vous avais rappelé quelque chose d'important, et Benjamin Sportouche va pouvoir le dire aussi, c'est qu'il y a une volonté de rendre la vie très difficile pour les non-vaccinés. Et ça, le test PCR qui ne dure que 24 heures et le test antigénique qui ne dure que 24 heures, c'est vraiment le symbole de cela. Ça ne va pas être facile, notamment pour les jeunes, parfois entre 12 et 18 ans, qui ont besoin de passe sanitaire, et je pense à ceux qui font du sport le week-end, dont le passe sanitaire ou le test antigénique. Les parents, il va falloir que le vendredi ou le samedi, pour les enfants non vaccinés, ils passent le temps à la pharmacie ou au laboratoire pour faire des tests.
Absolument, oui, parce que les jeunes, en effet, qui faisaient leurs tests, par exemple, le vendredi, pour être tranquilles tout le week-end, pour sortir en discothèque, pour aller au restaurant, pour faire du sport, comme vous disiez, Pascal, ils ne faisaient qu'un test le vendredi. Là, s'ils veulent faire des choses le samedi, le dimanche, c'est test tous les jours.
Question toute simple, la troisième dose est compatible avec n'importe quelle première dose ?
Oui, ce que disent mes collègues, c'est que même certains disent que c'est bien de pouvoir varier,
de mixer.
Mmh. Alors c'est une troisième dose, le mot exact serait un rappel, car ça donne effectivement une augmentation très importante des anticorps, très rapidement. Et donc c'est pour ça que les projections ne sont pas conformes aux prévisions. Tout peut changer en fonction du comportement, et là, la pression est mise de manière maximale. Effectivement, comme vous dites, c'est pousser les gens, les forcer à aller vers la vaccination. Et je pense qu'on ira aussi vers la vaccination des enfants, mais le délai est nécessaire.
Passe vaccinale, pourquoi pas. 13h09, mais on est en pleine campagne électorale et Benjamin Sportouche fera peut-être là-dessus un éclairage à nous donner, ce que ça peut influencer. A tout de suite.
RTL Midi. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Ils vont l'avoir dans une seconde, la parole, les auditeurs. Alexandre, vous êtes avec nous ?
Oui, je suis avec vous.
Bon, vous nous écoutez. On termine sur les annonces et on revient vers vous. Les annonces, on les rappelle avec Amandine.
Alors, annonce principale, c'est ce rappel vaccinal, cette troisième dose, comme on dit, qui sera ouverte donc aux plus de 18 ans, dès 5 mois après leur dernière injection, et ce, dès samedi, dit le ministre de la Santé. Cette troisième dose, elle sera nécessaire pour conserver son pass sanitaire au-delà du 15 janvier, explique le ministre de la Santé. Benjamin Davidot, vous êtes resté avec nous, merci beaucoup. Ça ressemble quand même à une obligation vaccinale, on est d'accord, non ?
Ça va en tout cas vers une mouvance d'un pass sanitaire vers un pass vaccinal. C'est sûr que les tests à 24 heures vont encourager les gens de plus en plus à se faire vacciner. Vous imaginez que si vous faites cette activité durant la semaine, avant vous faisiez 2 PCR, là il en faudra 7. Ça paraît irréalisable. Et clairement, aujourd'hui, les données de la science montrent la protection et l'efficacité sur les formes graves et l'hospitalisation. Encore une fois, l'objectif, c'est que pas d'hospitalisation, pas de formes graves, pas de restrictions. Je crois que c'est le cap que s'est fixé le gouvernement.
Un tout dernier mot et après on vous libère sur la vaccination des 5-11 ans. L'Agence européenne de santé a donné son feu vert pour Pfizer. Olivier Véran dit la France y réfléchit mais pas avant 2022. Vous dites quoi ? Le gouvernement a tort de freiner ?
Non, je pense qu'il a raison parce que il faut pas d'emballement, il faut pas d'empressement et que le message qui consisterait à dire qu'on vaccine les enfants demain, d'abord créerait beaucoup de questions, beaucoup d'embouteillages sur la vaccination et que aujourd'hui l'objectif c'est de réussir la campagne de troisième dose parce que ce sont bien les adultes qui majoritairement se retrouvent à l'hôpital. Et je terminerai sur ce point qui est que durant la quatrième vague dans le service où je travaille, l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, la moyenne d'âge des gens hospitalisés était de 44 ans, ce qui est extrêmement jeune mais qui est bien au-delà évidemment des 5-11 ans.
Merci Benjamin Davidot. Je rappelle que vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Je vais remercier également Amandine qui va peut-être filer faire sa troisième dose.
Mais non, je vais attendre samedi. C'est à partir de samedi, c'est ça.
À partir de
samedi. Attendez, moi, je suis les règles. Hein.
Vous avez raison. Mais en revanche, Marie Guerrier, ça, ça va vous intéresser, Amandine, parce qu'à l'école, ça change tout, ce qu'a dit M. Blanquer tout à l'heure.
Oui, le ministre de l'Éducation nationale vient de confirmer, c'est la fin de la fermeture systématique des classes dès l'apparition d'un seul cas. En revanche, c'est le dépistage systématique des élèves. Donc, un cas survient dans une classe de primaire, tous les élèves de la classe sont testés. Ceux qui sont négatifs continuent d'aller à l'école, ceux qui sont positifs sont renvoyés chez eux pour une semaine. Alors, il y a une expérimentation en cours dans 10 départements. Là, ce sont les labos qui viennent dans les classes où il y a un cas et testent tous les élèves. Avec la généralisation du système, là, le ministre précise, ça prendra peut-être des modalités différentes. Il y a des endroits où les labos ne sont pas disponibles, ça prendrait trop de temps. Donc, les parents feront tester leurs enfants pour savoir s'ils sont négatifs et qu'ils peuvent retourner à l'école ou s'ils sont positifs. On rappelle que les tests sont gratuits pour les mineurs.
Marie Guerrier, Odile Pouget, spécialiste santé, Benjamin Sportouche, chef du service politique, et monsieur André Grimaldi, professeur de médecine à la Pitié-Salpêtrière, sont avec les auditeurs. C'est assez rare. Donc, Alexandre, vous pouvez commenter, mais pourquoi pas poser des questions. Bonjour, Alexandre.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Votre sentiment après ce que vous avez entendu ?
Eh bien, bon, bah, moi, je fais partie des gens qui ne sont pas forcément pour la vaccination obligatoire et poussée pour les gens de plus de 18 ans et encore plus 12-17. Parce qu'évidemment, il y a les gens à risque, je suis d'accord. Mes grands-parents sont vaccinés, j'en suis très heureux parce qu'ils sont à risque. Mon père aussi, diabétique, en surpoids, etc. Donc j'en suis très content, il n'y a pas de souci. Mais faire obliger la vaccination, parce que c'est une obligation vaccinale, au bout d'un moment, il ne faut pas se cacher. Mais il ne faut pas déconner, ça va quand même beaucoup trop loin. Si vous avez écouté, j'espère, hier, Gilbert Deray sur LCI à 18h24 précisément, il a dit, ne croyez plus, je cite, ne croyez pas que tout va se terminer avec la troisième dose. Nous allons vacciner, alors là je passe quelques passages, nous allons vacciner les 12-17, si on peut on fera les 5-11, et puis on descendra. Je le cite lui-même, on écoute Gilbert Deray, derrière il y a des docteurs qu'on n'écoute pas, professeur Perromone, professeur Perron, Gérald Tirzek, que j'écoute beaucoup, et on les écoute pas, on écoute que ceux qu'on a envie d'écouter.
Bah, en tout cas, nous, on écoute tout le monde. Mais en revanche, comme M. Grimaldi est là, c'est intéressant de lui demander son avis. La vaccination de tous pour que le virus ne circule pas. D'ailleurs, ça a changé. Avant, c'était la vaccination pour tous, pour qu'on ne transmette pas. Mais on se rend compte que le vaccin, hélas, transmet. Même si vous êtes vacciné, vous transmettez. En revanche, il faut freiner la circulation. Monsieur Grimaldi. Ah.
Oui,
qu'est-ce que vous répondez à Alexandre?
On voit que depuis le
pour
début,
le convaincre.
Oui, on voit que depuis le début, on court derrière le virus. Et au fond, si on n'avait pas de cinquième vague, on dirait ben on continue comme avant. Donc on resserre pourquoi? Parce que le virus nous oblige. Hein? Alors vous avez vu qu'une petite fille de 11 ans a fait son papa qui était vacciné, était obligé de se mettre en isolement. Il s'appelle Monsieur Castex. Donc on a un problème de pouvoir circuler, vivre normalement. Alors la circulation du virus entraîne un risque supplémentaire qui est sa mutation. Tant qu'il circule, il mute. Alors on a un problème, vous voyez, encore majeur, qui est qu'il y a des pays riches qui sont vaccinés, puis il y a des pays pauvres qui ne sont pas vaccinés. Mais le virus, lui, il ne connaît pas les frontières. Donc on a un vrai problème à l'échelle mondiale, de ce que dit l'OMS, d'une vaccination maximale de la population, on en est loin. Alors en France, on a la chance en France d'être vacciné. Alors est-ce qu'il faut aller vers l'obligation vaccinale? Ben, on essaye de ne pas y aller en expliquant l'intérêt aux gens d'être vaccinés. On n'est pas une somme d'individus.
Bon, on va marquer une pause.
Il y a des règles. Hein.
On va marquer une pause. Mais bon, moi, je pose parfois des questions qui me viennent à l'esprit. Oui. Et pardonnez-moi, elles sont parfois politiquement incorrectes. C'est l'Europe qui est aujourd'hui l'épicentre et à l'Europe. Oui. Et c'est l'Europe qui est le plus vaccinée. Donc, c'est quelque chose qui m'interpelle. L'Afrique, par exemple, est moins vaccinée.
Vous avez raison, mais on a connu ça depuis le début. Depuis
et
le début,
je voudrais qu'on m'explique pourquoi.
Alors, on dit qu'il y a des raisons climatiques. Mais tout d'un coup. Oui. Ce qu'on avait dit comme vrai devient complètement faux.
Oui, hein, mais ce
les
que je veux, ce que j'ai entendu parfois, c'est que comme nous on est vaccinés, on n'a pas fabriqué l'immunité naturelle, et dans des pays où on n'est pas vacciné, curieusement, ils vont mieux s'en sortir que nous. Simplement, entre-temps, il y aura eu peut-être davantage de morts.
Il y a tellement de facteurs. Dans des pays pauvres, on a aussi un âge beaucoup plus jeune. On n'a pas forcément un recensement des chiffres. De la même façon. Hein, on ne compte pas les morts de la même façon, y compris en Russie et en France. Donc, juger la situation est quand même très difficile. Et se croire protégé, ou inversement, dire chez nous c'est catastrophique, on s'aperçoit que 6 mois après, ben, la vérité n'est pas exactement celle qu'on croyait.
La pause, et évidemment, ce sont les auditeurs qui vont vous interroger. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Ludovic Van de Kerkhoff, qui est à la rédaction en chef aujourd'hui, me rappelle que le port du masque est désormais obligatoire partout en intérieur, même là où le pass sanitaire était obligé, obligatoire, Odile Pouget.
Oui, tout à fait, c'est une confirmation, on le disait dès hier, donc retour du port du masque obligatoire dans tous les lieux, publics, recevant du public, c'est les centres commerciaux, c'est les cinémas, c'est les restaurants, là où on exigeait, où on exige le pass sanitaire, et le pass sanitaire ne suffira plus, il faudra le port du masque.
À partir de demain, et effectivement, lorsqu'on disait que ce masque, on va le porter peut-être jusqu'à la fin de nos vies, et que nos vies ne seront jamais plus pareilles qu'elles ne l'étaient avant le Covid, c'est ça aussi la crainte, disons-le, que nous pouvons avoir. Benoît, bonjour Benoît.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous.
Je suis enchanté de vous avoir.
Écoutez,
c'est réciproque. Je suis également pas très enchanté pour autre chose, c'est que je vois que dans votre studio, autour de vous, vous avez des gens qui pensent tous la même chose, donc effectivement, c'est très compliqué d'avoir un avis éclairé, puisque ils sont à peu près tous d'accord sur l'obligation vaccinale.
Moi, je pense pas toujours la même chose en général que les gens, mais
mais
j'essaye en tout cas d'être équilibré dans les arguments et contre-arguments.
Je voulais revenir sur ce qu'avait dit le professeur en disant que les vérités qui étaient vraies il y a quelques mois ne le sont plus aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, lorsque lui vient nous amener sa vérité aujourd'hui, elle sera peut-être plus vraie dans 6 mois.
Non, mais il dit une chose qu'il faut entendre. Le virus mute. Il va vous répondre, mais il dit le virus mute. Ça s'entend. Alors, si vous le laissez circuler, il mute.
Alors moi, je vais reprendre ce qu'on nous a expliqué depuis le début. C'est lorsque l'on est vacciné, on transmet aujourd'hui en plus avec les nouveaux variants autant que quelqu'un qui n'est pas vacciné. Donc qu'on soit vacciné ou pas, le variant sera toujours transmis. Donc en fait, nous n'en sortirons jamais.
Monsieur Grimaldi.
Non, alors, il y a des choses qui sont vraies, puis il y a des choses qui sont des hypothèses, des doutes. Alors qu'est-ce qui est vrai ? C'est que le vaccin diminue fortement les formes graves. Hein, divise par 10. Deuxièmement, il diminue la transmission, mais il ne la supprime pas. Ça, c'était une déception. Au début, on a cru qu'avec la vaccination, il n'y aurait plus de contamination. Il y a encore des contaminations, notamment au fil des mois qui passent. Donc c'est vrai que ce n'est pas zéro, mais ce n'est pas dire qu'il ne diminue pas la contamination. Si, il diminue la contamination, mais beaucoup moins qu'on ne le pensait. Ça, c'est des choses solides. Ensuite, le vrai problème, il est quoi ? Qu'est posé d'ailleurs dans notre société en général ? C'est celui de la confiance. Moi, je ne suis pas spécialiste et je le dis. Hein, je suis diabétologue. Comment je fais pour avoir quelques avis ? J'ai confiance dans un certain nombre de personnes qui, eux, consacrent leur vie à ces questions-là et n'ont pas de conflit d'intérêts. Moi, j'ai confiance dans Alain Fischer. Hein, je pense qu'on a un problème dans notre société, c'est qu'on n'a plus confiance et qu'on a des raisons de ne plus avoir confiance. Parce qu'il y a eu l'affaire du Mediator, parce qu'on nous a dit que les masques, c'était inutile, etc. Donc c'est un vrai souci. Mais dans la vie, il y a plein de sujets. Vous faites confiance, vous êtes compétent, par exemple, sur l'énergie nucléaire ? Tout le monde a un avis. Mais il y a un problème de confiance. Alors, vous diriez, pour la confiance, vous dites, quels sont les conflits d'intérêts ?
Non, je partage à 100% ce que vous dites. Donc, mais ce qui nous agace un peu, c'est que tout le monde dit, par exemple, que le masque à l'extérieur ne sert à rien, et on nous l'impose.
Alors,
et c'est ça qui m'ennuie dans cette séquence-là.
Je suis pas...
Et on nous l'impose sur le prétexte que parce qu'on ne l'aurait pas à l'extérieur, on n'est pas assez grand pour le remettre après à l'intérieur. Et moi, j'aime pas qu'on me prenne pour un enfant.
Ça, vous avez complètement raison. L'infantilisation qu'on a connue est assez insupportable. C'est-à-dire, y compris...
Je suis content que vous le disiez.
Quand le président de la République a présenté un peu la vaccination comme « Vous pourrez vivre, et le Premier ministre, si vous êtes vacciné, vous pourrez vivre normalement. » Ben non. Hein, vous êtes vacciné, vous aurez quand même les gestes barrières. Hein, parce qu'on n'a pas d'arme absolue. Et le vaccin est la meilleure arme, mais elle n'est pas une arme absolue. Après, vous avez des choses de bon sens. au début, on ne savait pas très bien comment, on vous rappelez, se transmettait le virus. On disait y compris les poignées de porte, y compris, enfin, on était dans... Bon, on a su, après on a dit, évidemment, les postillons. Et puis, les aérosols. Alors, les aérosols, fait qu'en milieu confiné, en milieu fermé, mais en milieu ouvert, si vous êtes dans une chorale, si vous êtes côte à côte, dans une manifestation, et que vous criez, vous ne croyez pas que vous allez recevoir des postillons ? Ben, bien sûr que oui. Par contre, si vous êtes à distance, si vous êtes, rappelez-vous, sur les plages, on a interdit les plages. Et si vous êtes seul en train de vous promener en forêt, bon, évidemment. Donc là, on est dans le domaine bon, du
Benoît,
bon sens.
Benoît, qui est pompier, qui est un peu offensif, est-ce que vous êtes satisfait des arguments de monsieur Grimaldi ?
Mais pas du tout, parce que en fin de compte, tout à l'heure, on nous expliquait que dans les pays moins vaccinés, effectivement, les gens mouraient plus jeunes. Et en fin de compte, ils ont créé une immunité. Donc on est d'accord que chez les gens plus jeunes, on crée des immunités. Mais par contre, chez nous, on veut quand même vacciner les enfants. Je comprends pas. Alors chez eux, ça fonctionne, mais ça fonctionnerait pas sur les enfants. Et autre chose, juste je terminerai sur ça, parce que je sais qu'il y a d'autres auditeurs derrière moi. Moi, je veux bien appliquer les gestes barrières qu'a utilisé Monsieur Castex et Monsieur Macron lors, par exemple, de la conférence des maires. Vous voyez, moi, je veux bien utiliser ce genre de gestes barrières. Et puis, si on voit bien également la manipulation qui est en train d'être faite, on estime que ça ne sera pas tout de suite pour les enfants de 5 à 11 ans. Eh bien, c'est très simple. Une fois que ce gouvernement, s'il devient de nouveau au pouvoir, il pourrira la vie également de ses enfants pour les obliger à se faire vacciner comme ils les ont fait pour les jeunes de 12 à 18 ans.
Bah merci Benoît, je précise évidemment pour que le masque à l'extérieur, c'est que les préfets décideront, hein, c'est pas une décision du ministère de la Santé, et qu'effectivement les préfets pourront interdire le masque, pourront plus exactement rendre obligatoire le masque à l'extérieur.
Sur les marchés de Noël par exemple, là où il y a une grosse concentration.
Moi ce qui m'ennuie un peu, si vous me permettez, c'est qu'on pourrait à l'extérieur laisser l'intelligence aux uns et aux autres. On pourrait parier sur l'intelligence. On connaît tous désormais cette épidémie. Et effectivement, quand vous entrez dans un endroit où il y a particulièrement de monde et que vous êtes à l'extérieur, bah vous portez votre masque. Mais pourquoi faut-il imposer à l'extérieur parfois ? C'est une question en tout cas qu'on peut se poser. Il y en aura d'autres, des questions avec les auditeurs. Merci Benoît. Vous êtes un peu offensif, un peu virulent, mais c'est le jeu des auditeurs. On va être avec Jessica dans une seconde. Et puis on reste ensemble avec également Benjamin Sportouche parce qu'il y a des questions politiques à poser. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Pascal Praud,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Marie Guéry est restée avec nous, Odile Pouget est là, Benjamin Sportouche, ça va être intéressant de parler politique avec vous et Monsieur Grimaldi. Mais Jessica, bonjour Jessica.
Bonjour.
Et je voulais savoir comment vous viviez ces mesures qui ont été annoncées par Monsieur Véran il y a quelques minutes.
Bah, écoutez, moi, d'après ce que j'ai pu entendre, ça a durci un peu les choses. Moi, j'ai perdu mon travail à cause de tout ça. Pourtant, moi, les gestes barrières, je les ai toujours respectés. Ils m'ont testé tous les 3 jours. J'ai toujours écouté en fait ce qu'il fallait faire. Et là, actuellement, je n'ai plus de boulot parce que je n'ai pas voulu me faire vacciner. Donc déjà, la première dose pour moi était un problème.
Vous êtes aide-soignante, hein, je le rappelle, qu'il y avait quelque chose d'étonnant, sinon de choquant, qu'un soignant ne soit pas vacciné. Disons-le.
Oui, bah écoutez, moi j'ai toujours respecté ce qu'on me demandait de faire. Je me suis testée tous les 3 jours. J'ai toujours respecté les gestes barrières et...
Mais pourquoi vous ne vous êtes pas fait vacciner, Jessica ?
Bah écoutez, parce que ce vaccin me fait peur. Il a été créé pour moi trop rapidement. J'ai peur, honnêtement, j'ai peur des effets secondaires, oui.
Mais ça, j'entends. D'abord, je trouve très courageux aujourd'hui de dire ce que vous dites, puisque beaucoup de gens pensent comme vous, mais n'osent pas le dire comme cela. Cette peur, elle existe. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens, Monsieur Grimaldi, qui ont peur ?
Ben, premièrement, que sur l'ARN messager... Ça fait 30 ans qu'il y a eu des travaux sur les ARN messagers. C'est pas du tout une découverte. Tout d'un coup, on a lancé ça comme ça. Alors, donc ça, c'est ensuite, quand même, la vaccination en France, c'est un sujet pour les soignants qui était évident quand même. On a dans des EHPAD, par exemple, des personnes qui décèdent chaque année, 6 000 à 8 000, parce qu'elles attrapent le virus de la grippe, transporté par une secrétaire, par une aide-soignante, par une infirmière, par un médecin. C'est pas acceptable. La première règle éthique médicale, c'est ne pas nuire. Moi, je vois pas comment je... Dans quel état je serais si j'avais la conviction que j'ai transmis le vieux coronavirus à un de mes patients diabétiques obèses et qu'il en est mort. Je serais dans quel état? Alors que mon métier, mon but...
Bah, Jessica, enfin, été... elle répond en disant j'ai respecté les gestes barrières,
elle peut changer de métier,
je faisais tout.
Un point sur lequel elle a raison, c'est que quand il y a eu la première vague, on a dit aux soignants, vous êtes positif, mais si vous n'êtes pas trop fatigué, venez quand même travailler en mettant votre masque. Donc on leur a dit, quelque part, ça va. Hein, on les a poussés à ça. On leur a même dit, vous n'êtes pas prioritaire pour la vaccination, rappelez-vous. Hein, on a dit aussi, avec l'AstraZeneca, il y a des effets un peu secondaires, pseudo-grippaux, ne vous vaccinez pas tous en même temps. Donc on a envoyé des messages contradictoires, ça c'est exact. Mais enfin, le problème de la vaccination de Jessica, c'est un problème français plus général. On a 6000 cancers par an dus au papillomavirus. Il y a un traitement préventif qui s'appelle le vaccin. En France, il y a 20% de jeunes vaccinés, 80% en Angleterre. Bon, on a en France un vrai problème maintenant avec la vaccination que n'ont pas d'autres pays, qui ont une tradition de médecine préventive qu'on n'a pas en France.
Jessica, vous étiez aide-soignante aujourd'hui, donc vous n'avez plus de job, si j'ai bien compris. Et vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi?
Je cherche une formation pour changer de secteur d'activité. Écoutez,
et vous n'avez pas envie de revenir sur votre décision?
Non, pas pour le moment, non.
Vous avez toujours des craintes, même après ce que dit M. Grimaldi. J'imagine en plus que depuis des mois, vous entendez des gens défendre la vaccination, mais jamais ça ne vous a persuadé.
Non.
Ben merci Jessica et bon courage. Avec Marie Guerrier et Odile Pouget, on peut peut-être rappeler les principales mesures, si j'ose dire. Alors pour l'école, c'est très important, les gens qui nous écoutent, parce que ça va changer leur vie. On ne va plus fermer une classe, je l'ai dit tout à l'heure, ça change la vie.
À l'école primaire, voilà, plus systématiquement une fermeture dès qu'il y a un cas dans la classe. Ça va se mettre en place dans le courant de la semaine prochaine. Mais alors, ça veut dire aussi qu'on va systématiquement tester les enfants de la dite classe où il y aura un cas positif. Deux manières de faire, soit le labo se déplace à l'école, c'est ce qui se passe actuellement dans 10 départements qui font une expérimentation du dispositif, ou alors quand ce n'est pas possible que le labo se déplace, on demandera aux parents de faire tester les enfants. Les tests pour les mineurs sont gratuits. Alors on pourrait penser comme ça que finalement on assouplit le protocole puisqu'on ne ferme plus systématiquement la classe, mais en fait ça doit permettre de tester davantage les enfants, parce que quand on a organisé des campagnes de dépistage dans les écoles, il y avait beaucoup de refus des parents de laisser tester les enfants dans le cadre de l'école. Et bien là, voilà, ça va revenir dans leur responsabilité de faire tester leurs enfants. S'il est négatif, il retourne en classe. S'il est positif, il reste bien sûr à la maison.
Odile, je pense aux non-vaccinés qui nous écoutent. Leur vie va être de plus en plus difficile. Et notamment le test PCR. C'est intéressant le test PCR parce que généralement, tu n'as pas le résultat immédiatement. Tu l'avais au minimum 4 heures plus tard, voire le lendemain. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec des tests PCR qui seront valables quelques heures.
Alors oui, en effet, le test PCR, puis il y a aussi quand même le test antigénique qu'on peut faire. Et
oui, mais on ne peut pas le faire partout. C'est-à-dire qu'en province, toutes les pharmacies ne proposent pas le test antigénique. Oui. À Paris, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment. Je peux vous dire que dans plein de villes de province, parce que ça nous remonte, les tests antigéniques, les pharmaciens ne les font pas toujours. Donc la vie va devenir infernale.
Ben oui, parce que ce test PCR et test antigénique aussi ne seront valables maintenant que 24 heures au lieu de 72 heures, histoire donc d'inciter tous ceux qui ne sont pas vaccinés, il y a encore 6 millions de Français qui ne sont pas vaccinés, à donc franchir le cap pour pouvoir avoir ce fameux pass sanitaire.
Risque politique là, Benjamin Sportouche, parce que je pense, oui, j'ai cité l'exemple politique. Des enfants qui font du sport le week-end et ça. Risque politique parce que colère possible.
Risque politique mesuré. Vous imaginez bien que nos dirigeants ont les yeux rivés sur les sondages. 68% des Français se disent aujourd'hui pour la vaccination obligatoire, Pascal.
Oui, mais il y a 6 millions de gens. Hein.
Pardon ?
6 millions de gens qui refusent
ces
6 millions de
gens.
C'est pas rien, 6 millions de gens en colère.
Mais la question qui va se poser, c'est est-ce que c'est pas une obligation dissimulée ?
Ça l'est.
Bon, clairement, on peut dire qu'il y a une incitation très forte. Donc la question va se poser dans le débat politique, parce que ça s'invite à nouveau et brusquement dans la politique et dans la campagne présidentielle que la pandémie. Il y a quelques jours encore, il y a deux semaines, on n'en parlait pas, on se disait qu'on allait pouvoir y échapper. Donc oui, Emmanuel Macron va se retrouver peut-être avec une contestation politique, mais dans l'opinion publique, encore une fois, cette vaccination obligatoire, elle est majoritairement soutenue.
Et vous nous direz tout à l'heure qui soutient la politique sanitaire du gouvernement et qui, au contraire, va entrer en dissidence. 13h38.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Marie Guerrier nous rappelait que 72%, 77% des 12-18 ans sont vaccinés, primo-vaccinés.
Oui, et 75% ont leur schéma vaccinal complet. C'est trois quarts donc de cette classe d'âge. Visiblement, l'un des taux les plus forts en Europe aujourd'hui.
Stéphane est avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour Pascal.
Et
bonjour,
merci d'être avec nous. Votre sentiment ou vos remarques sur les décisions qui ont été prises aujourd'hui?
Un incendie de forêt. Qu'est-ce qu'on fait là pour lutter contre un incendie de forêt? On allume un coupe-feu. C'est pas on jette des seaux d'eau sur la forêt, c'est on allume un coupe-feu. C'est-à-dire qu'on abat des arbres pour qu'il n'y ait plus rien à brûler. Oui ou non?
Oui, si c'est un test que vous me proposez, je réponds oui, Stéphane. Je ne sais pas où vous voulez en venir, mais où je le devine un petit peu, mais je... Je vous réponds oui.
Là, les mesurettes et puis en venir au sérieux, ce qui aurait dû être fait déjà depuis mars 2020.
C'est-à-dire que qu'est-ce que vous voulez? Qu'on ferme tout, confiné. Toujours, tout le temps.
Mais
on
bien
sort
sûr.
Plus, tout le temps.
Parce que le docteur là, le professeur, le
Monsieur Grimaldi, parce que
voilà, il nous dit que le virus circule. Non, c'est pas le virus qui circule, c'est les humains qui circulent.
Non, mais il y a 1300 personnes en réa aujourd'hui.
Non, mais attendez.
1300 virus, personnes en réa. Moi, je veux bien qu'on ferme tout le pays pour 1300 personnes en réa et que tout virus, s'arrête.
Non, mais attendez, le virus ne circule pas. C'est les humains qui circulent.
Oui,
bloque la circulation des humains, on bloque la circulation du virus. D'accord.
Donc, vous voulez mettre tout le monde chez soi.
Mais si déjà, il y a l'année dernière, en 4 ou 5 mois, on avait vraiment fait un confinement réel, strict, quand je vois qu'au mois de mars... au mois d'avril 2019, madame la maire de Vaux-en-Velin, d'accord, en plein confinement, faisait son marché sur le marché du Ramadan à 19h. Il y a des vidéos de ça.
Non, mais c'est-à-dire Stéphane, je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce, au fond, vous pensez quoi? Vous pensez qu'un confinement pur et dur aurait arrêté définitivement le virus? C'est ça ce que vous dites?
Mais bien sûr.
Bon, alors, je vais demander à M. Grimaldi, c'est simple, en théorie, si par exemple on faisait un confinement drastique, que personne n'ait le droit de sortir, que personne ne rencontre personne, et qu'on reste pendant 3 mois à l'isolement, est-ce que le virus serait encore là dans 3 mois?
C'est la question qui se posait avant qu'on ait le vaccin. Avant qu'on ait le vaccin, on disait tester, tracer, isoler, pour éviter d'avoir à confiner tout le monde. Et comme dans nos pays, on n'est pas capable de le faire vraiment... Parce que c'est ça la vérité, c'est qu'on n'a pas vraiment réussi à tester, tracer, isoler. Bon, et bien donc, on a abouti à un confinement généralisé. Bon, et ensuite, on a eu du mal, alors qu'il a été efficace à chaque fois. Mais on a eu beaucoup de mal à en sortir, parce qu'en sortir, on retombait sur le tester, tracer, isoler. Rappelez-vous qu'à un moment donné, on avait les résultats du PCR plusieurs jours après. Et donc, on contaminait tout le monde.
Mais Stéphane dit qu'il faudrait tout fermer aujourd'hui.
C'est absolument impossible. D'autre part, bon, c'est évidemment le virus circule parce que les hommes circulent, mais les hommes sont un être social. Si les hommes vivent seuls, n'est-ce pas, c'est dramatique. C'est un moyen de mourir pour l'espèce humaine. Donc, on est un être social et on l'est beaucoup plus dans nos sociétés modernes. La définition de société moderne, c'est justement...
Non, mais ce serait même pas efficace.
Donc, c'est efficace en créant la mort. Vous créez la mort d'une société et vous n'avez plus de virus.
Donc Stéphane, vous préférez qu'on meure. C'est ça votre choix, Stéphane. Vous préférez qu'on...
Isoler tout le monde, c'est une société qui meurt.
Non, mais il faut prendre un petit peu mettre tout ça en perspective. Vous comprenez bien que, je le répète, il y a 1300 personnes qui sont en réa. Aujourd'hui, 1300 personnes, on en est 67 millions.
Oui, donc c'est 0,00 et quelques, c'est ça?
Mais je dis qu'il faut mettre les choses en perspective, c'est tout. Il y a un vaccin, il y a d'autres. La vie, c'est pas simplement ne pas avoir le Covid, Stéphane. La vie, c'est pas simplement ne pas avoir le Covid. Vous comprenez?
Ah mais non, mais moi, vous croyez que je suis vacciné? Je ne suis pas vacciné, moi.
Ah bon, bah c'est très cohérent, effectivement, ce que vous nous dites. Merci beaucoup.
Alors, je ne suis pas vacciné. Je conduis tous les jours plus d'une centaine de personnes dans mon bus pendant plus de 7 heures. D'accord.
Oui, et vous voulez mettre tout le monde à l'arrêt. Vous êtes étrange, si vous me permettez, mais c'est bien ou en même temps d'avoir des gens qui sont différents?
Il n'y a jamais eu de confinement. Il n'y a jamais eu de confinement, de vrai confinement.
Mais vous avez le droit de conduire un bus alors que vous n'êtes pas...
Bien sûr.
Je ne me permettrai pas de remarques, si vous me permettez, mais c'est quand même étrange, convenez-en. Vous êtes au contact de la population et du public, et vous-même, êtes, d'abord pour vous, vous êtes peut-être en danger, hein, tout simplement vous, et puis peut-être vous êtes un danger pour les autres, si vous me permettez.
Espérons qu'il a fait une forme asymptomatique, qu'il a des anticorps.
Espérons. Bon, merci Stéphane en tout cas. Merci beaucoup. Bah, il est fâché.
Ouais, bon.
Il est parti. 13h47, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Eh bien écoutez, on n'avait jamais eu autant de monde autour de la table pour cette émission et je vous en remercie grandement. Merci Odile Pouget. Merci Marie Guerrier, merci Monsieur Grimaldi. La seule chose, vous ne m'avez pas dit, qui est en dissidence sur les mesures d'Emmanuel Macron. J'ai l'impression qu'il y a consensus, moi, dans la classe politique.
Alors, Marine Le Pen est hostile aux mesures qui sont annoncées. Alors, elle dit, le pass sanitaire, il faut arrêter. On ne sait pas quelles mesures exactement elle préconise. Pour stopper. Bah
vous lui poserez la question dimanche, vous la recevez.
Voilà, c'est un bon teasing. Vous m'avez permis ce teasing parce qu'elle sera l'invitée du grand jury dimanche.
Bah merci, en tout cas, vraiment merci. On va continuer évidemment ce dialogue avec les auditeurs. Et nous sommes, je pense, avec Émilie qui est là. Bonjour Émilie qui habite Rennes.
Bonjour Pascal.
Merci, votre sentiment sur ces mesures et en général sur l'épidémie.
Bah, en tout cas, surtout pour commencer au sujet de la troisième dose. Qui est pour moi, je pense, une mesure incontournable que j'attendais. J'attendais d'avoir le feu vert pour pouvoir enfin prendre un rendez-vous. Donc ça y est, je vais pouvoir le faire. Incontournable parce que pour moi, l'épidémie, elle repart. Enfin, c'est incontestable. Je regarde les chiffres de tous anti-Covid quand même régulièrement et je vois bien les graphiques qui s'affolent ces dernières semaines, ces derniers jours. On a maintenant quand même un moyen de combattre la Covid. On a tous réclamé au premier trimestre 2020, un vaccin ou des médicaments. Maintenant qu'on a ça, qu'on peut se faire vacciner, qu'on peut, je vais même dire, tous se faire vacciner, il y a quand même encore moins d'un quart des Français, je crois, ce que vous disiez tout à l'heure, qui a un schéma vaccinal complet. Donc non, effectivement, il faut y aller. Après, pour prendre rendez-vous, donc la troisième dose, ça va être compliqué. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça représente 400 000 personnes par jour.
Mais oui, et il va falloir effectivement mettre en place cette organisation.
Effectivement. Donc là, on est le 25 novembre. Je me suis connectée à Doctolib ce midi. Et donc, j'ai trouvé un rendez-vous le 3 janvier sur Rennes. Donc voilà, il va falloir.
Et puis, on comprend surtout qu'on entre dans un processus où tous les 5 mois, il va falloir se faire revacciner. C'est ça ce qu'on comprend aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que ça va durer 20 ans. Je dis au moins que ça va durer... au moins en 2022, sans doute, parlera-t-on de quatrième dose. C'est ce que je comprends aujourd'hui.
Eh bien, on ira. C'est le seul moyen aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ça choque personne. Enfin, bon, voilà, j'ai 36 ans. Franchement, ça me fait mal. Pour moi, je vis un scénario catastrophe tous les jours, quoi. Je suis commerciale, je rencontre des gens tous les jours, on se voit tous avec le masque. Dès qu'on rentre dans un lieu fermé, il faut qu'on porte un masque. Enfin, personne ne veut s'en sortir de ça ou quoi? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Bah, pourquoi les gens ne vont pas se faire vacciner et pour aller...
Mais donc, vous ne pouvez pas dire ça, puisqu'on est sur des taux de vaccination quasiment record. Vous avez une petite pourcentage de gens qui sont encore réticents, mais 67% des gens sont pour la troisième dose. Justement, ce qui est frappant dans cette séquence, c'est le consensus qu'il existe, ce qui n'est pas si fréquent, croyez-moi, en France, des sujets où vous avez 2 Français sur 3 qui pensent la même chose, c'est pas si fréquent, hein. Et là, sur l'épidémie, sur les restrictions, sur la vaccination, des jeunes, et ça, vous avez 2 Français sur 3 et sans doute plus qui pensent la même chose.
Je suis d'accord avec vous, Pascal. Mais il reste 1 Français sur 3 qui, pour moi, aujourd'hui, pose problème. Donc,
sans doute un peu moins, d'ailleurs, d'1 Français sur 3. Il y a 77%, par exemple, des 12-18 ans qui sont vaccinés. Vous vous rendez compte ? 77%, oui. C'est-à-dire que les parents ont accepté que leurs enfants soient vaccinés dans cette proportion aussi importante. C'est écrasant comme majorité.
Mais c'est bien, mais il en manque encore un peu.
Donc, oui, mais vous pouvez rarement faire du 100% hein, dans n'importe quel domaine. Je vous dis 77%, moi-même je suis étonné du chiffre pour tout vous dire.
Je suis d'accord avec vous. Mais vous n'avez pas... Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'antivax autour de vous. Moi, franchement, j'en ai quand même quelques-uns.
Moi, j'en ai pas. Franchement, alors nous, on baigne dans un milieu de journalistes où j'entends des antivax. Je les entends parfois à l'antenne, mais dans les gens que je connais, il n'y a pas de gens qui ne sont pas. Il y a quand même un ou deux journalistes qu'on reçoit effectivement. Ils sont pas antivax d'ailleurs. Ils sont. Ils veulent pas ce vaccin-là. Voilà. Alors, ce sont des personnalités, d'ailleurs, je peux donner leur nom, parce qu'elles se sont exprimées à l'antenne régulièrement sur une autre antenne qu'ici. C'est Yvan Rioufol, qui est journaliste au Figaro, qui, effectivement, n'est pas vacciné, qui le dit. Mais il n'est pas anti-vax, voyez-vous. Il a d'autres vaccins, mais celui-ci, visiblement, il n'y va pas.
Oui, enfin bon, dans ce cas-là, on n'en sort plus, comme ceux qui attendaient le vaccin français et qui arrivera jamais. Dans ce cas-là... on bouge un petit doigt et on recule d'un pied. Enfin, c'est vraiment... Des antivax, moi j'en ai plein autour de moi, vraiment, et je suis ravie.
C'est quoi leur profil d'ailleurs, leur âge, j'ai envie de dire leur formation, leur...
Des cadres, et j'en ai même des cadres dans le monde de la biologie, parce que c'est là-dedans que je travaille. J'ai des amis qui sont anti-vax, qui se font tester PCR, alors maintenant ça va être toutes les 24 heures, ils vont peut-être moins y aller.
C'est l'enfer, hein.
Mais oui.
Pour eux, la vie d'un non-vacciné aujourd'hui, c'est vraiment pas simple. Ben merci beaucoup, Émilie. Il est 13h55. Est-ce que nous écoutons Jean-Alphonse avant la pause ? On a été un peu chamboulé.
Nous pouvons.
Allez, Jean-Alphonse, qui vient pour l'heure du crime. Bonjour, cher Jean-Alphonse.
Bonjour, mon cher Pascal. Aujourd'hui, je vais vous parler de Rodica Negroyou et ses chers disparus. Rodica Negroyou. C'est une aide-soignante qui a aujourd'hui 82 ans. Et elle a eu trois hommes dans sa vie qui sont passés, sans doute plus, mais elle a eu trois hommes qui sont passés et qui ont trépassé. Ce sont des hommes qui n'étaient pas forcément malades. La faute à qui ? La faute à pas de chance ? Ou bien la faute à un cocktail de médicaments, un empoisonnement ? Eh bien, elle va être soupçonnée d'empoisonnement. Rodica Negroyou, elle va être condamnée à 20 ans de prison. Et ça fait 22 ans qu'elle se bat pour obtenir la révision de son procès. Elle a 82 ans aujourd'hui. Elle sera notre invitée d'ailleurs dans l'heure du crime tout à l'heure. Et elle a déposé une troisième demande en révision de son procès. Voilà.
Affaire qui s'annonce passionnante. La pause. On va faire gagner 1000 euros, me dit Laurent Tessier tout à l'heure. On va appeler un auditeur. C'est bien ça, Laurent, entre 14h et 14h30.
On appellera un auditeur au hasard, Pascal, partout en France.
Au hasard, c'est pas quelqu'un qu'on connaît.
Non.
Par exemple, je ne peux pas appeler quelqu'un que je connais pour le faire gagner
non.
1000 euros.
C'est, j'ai pas le droit, Pascal.
Dommage. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
Noël, c'est dans un mois. Avez-vous déjà commencé vos achats de cadeaux ?
Oui !
Ah bon ?
Quand j'entends chanter Noël.
Et surtout, restez bien près de votre téléphone. Rechargez votre portable pendant l'émission jusqu'à 14h30. Un Français sera appelé au hasard pour recevoir 1000 euros en bon d'achat expartout.com. Et vous offrir vos courses de Noël ce matin, par exemple, avec Yves Calvi.
Allô ?
Oui.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour.
Bonjour, Yves Calvi, RTL. On vous appelle oui. totalement au hasard. Et si vous décrochez, bah, tout simplement, vous gagnez 1000 euros. C'est le Noël sur RTL aujourd'hui. Je peux vous demander votre nom ?
C'est une blague ?
Non, c'est pas une plaisanterie, je vous le promets. Vous venez de gagner 1000 euros.
Vous êtes sur RTL.
Vous êtes sur RTL. Voilà, on va vous mettre un petit jingle.
Bon, vous êtes écoutez, alors je suis en direct, je suis en cours, je suis avec mes élèves.
Oui. Ah, c'est drôle.
C'est pour... Vous pouvez dire bonjour, c'est RTL.
C'est drôle.
Restez bien près de votre téléphone.
Ah, ça c'est génial cette séquence, c'est la vraie vie. 14h. 14h, disais-je, et le flash avec Agnès Bonfillon.
Ni confinement, ni couvre-feu envisagé face à la cinquième vague de l'épidémie de Covid en France. Selon Olivier Véran, qui tenait une conférence de presse à la mi-journée, nous pouvons, dit-il, passer cette vague sans recourir aux outils les plus contraignants. D'où ces nouvelles mesures annoncées par le ministre de la Santé. Désormais, par exemple, toutes les tranches d'âge peuvent prétendre à une dose de rappel.
Désormais, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adultes âgés donc de 18 ans et plus dès 5 mois après leur dernière injection. Il reste donc 19 millions de Français à date qui deviennent éligibles pour le rappel de vaccination et que nous invitons donc à se faire vacciner dans les deux prochains mois. La vaccination en rappel pour les adultes est ouverte à compter de ce samedi et vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur les plateformes de prise de rendez-vous en ligne pour réserver vos créneaux.
À partir du 15 janvier, le pass sanitaire, lui, sera inactivé si une personne n'a pas fait son rappel au maximum 7 mois après la dernière injection. Il y a également le resserrement des mesures autour des non-vaccinés. La durée de validité des tests va être ramenée à 24 heures et non plus 72 heures. Et puis concernant les enfants, à partir de la semaine prochaine, il n'y aura plus de fermeture de classe dès le premier cas de Covid. Il va y avoir une accélération des tests. Seuls les cas positifs devront rester chez eux. Quant à la vaccination des 5-11 ans, eh bien la France étudie cette possibilité, explique le ministre de la Santé, mais dans tous les cas, ça n'aura pas lieu avant début 2022. Enfin, à partir de demain, sachez-le, obligation de porter un masque dans les lieux recevant du public, y compris les lieux où le pass sanitaire est réclamé. Pour les événements en extérieur, les marchés de Noël par exemple, les préfets pourront prendre des décrets en ce sens. Au procès des attentats du 13 novembre, 4 accusés, dont Salah Abdeslam, refusent de se présenter à l'audience cet après-midi. Ils protestent contre l'absence physique à la barre et l'anonymisation d'enquêteurs belges qui doivent témoigner aujourd'hui. Et sachez, on l'apprend à l'instant, après le naufrage qui a coûté la vie à 27 personnes hier dans la Manche, une réunion est prévue ce dimanche à Calais avec les ministres européens et la Commission européenne. C'est une information communiquée par Matignon. Un petit mot de la météo. Demain, ce sera nuageux et pluvieux sur toute la France. En revanche, quelques belles éclaircies reviendront en Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les courses à Vincennes, voici les résultats. Le 4, le 16, le 6, le 9 et le 12. Le 4, le 16, le 6, le 9 et le 12. Il est 14h03 sur RTL. C'est tout de suite la suite. Des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal.
Merci Agnès.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Bon, évidemment, c'est une émission un peu spéciale, en tout cas spéciale sur les mesures annoncées par Olivier Véran, mais vous pourrez réagir sur d'autres thèmes. C'est vrai que Noël arrive, c'est vrai que Nicolas Hulot, ça peut être aussi un thème aujourd'hui. Tous les thèmes sont évidemment possibles. Pour le moment, on est bien sûr, on était en tout cas jusqu'à maintenant sur le Covid. Mais je vois que des appels Noël arrivent. Et c'est le cas par exemple de François, visiblement, puisque avez-vous déjà acheté vos cadeaux de Noël ? Était une question que posait Laurent Tessier.
Oui, bonjour Pascal.
François.
Bonjour. Eh bien oui, parce que Noël c'est important. Noël, il faut le préparer, ça se prépare, ça se prépare et ça se déguste. Mais c'est tellement court qu'il faut mieux préparer bien avant.
J'ai l'impression que c'est de plus en plus long. J'ai l'impression que ça commence le 1er novembre maintenant et ça se termine le 25 décembre.
Ça commence le 1er novembre dans les magasins, mais dans notre esprit, quand on a gardé l'esprit de Noël, c'est très court parce que c'est vraiment au moment où les enfants découvrent les cadeaux au pied du sapin, au moment où la fête se fait dans la famille, que Noël existe vraiment. Noël, apparemment, c'est un Noël commercial, mais le Noël, pour moi, c'est le pied du sapin, c'est les enfants autour et c'est l'émerveillement dans leurs yeux, les étoiles qui brillent. Et quand vous avez réussi ça, vous avez réussi votre Noël.
Bon, vous avez déjà acheté des choses ?
Ah oui, nous on a acheté des choses. Nous on a acheté des cadeaux pour les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants.
Et je crois que vous aviez appelé, vous avez beaucoup de petits-enfants et arrière-petits-enfants. Vous êtes une très grande famille.
24 petits-enfants, 13 arrière, parce qu'il y en a un qui est arrivé maintenant, je crois. J'arrive plus à compter, moi, en fin de compte. Hein.
Mais tout ça sera présent le 24 décembre ?
Alors, ils ne sont pas présents tous, parce que le problème, c'est que la maison ne serait pas assez grande. Alors, nous, Noël, vous voyez, nous, ça commence plutôt le 25 décembre, et ça se finit au milieu janvier, quoi.
Mais le 24 décembre, vous serez combien ?
Ah, 24 décembre, là, on va être, je crois qu'on est 8 ou 10.
D'accord.
Mais on est chez un des enfants, là. Donc, on va chez un des enfants.
Ça, c'est le 24 au soir. Le 25 au midi, vous faites quelque chose?
Alors, le 25 au midi, en temps normal, on avait une chose exceptionnelle, c'est qu'on ne faisait jamais rien avec la famille parce que on faisait un spectacle dans un EHPAD, et ça, j'y tenais tout le temps. Je faisais mon 3 heures de spectacle le jour de Noël parce que dans les EHPAD, il n'y avait pas beaucoup de familles qui étaient avec les pensionnaires. Ben, cette année, malheureusement, il y a eu une restriction et on n'a pas été commandé. Je crois qu'il n'y a pas d'animation véritable pour l'instant qui est prévue. Mais s'il y en avait une, c'est pour ça que je me réserve le droit de, s'il y en a une, j'y vais directement parce que pour moi, c'est le plus beau cadeau de Noël que je reçois moi. C'est l'émerveillement des gens que j'ai devant moi.
Qu'est-ce que vous aimez recevoir comme cadeau à Noël?
Moi, c'est les dessins de mes petits-enfants et de l'arrière.
Ah oui, ça coûte pas très cher d'un autre côté.
Non, c'est parce que je reçois ça parce que...
Mais il n'y a pas, oui. Par exemple, vous aimez pas, est-ce qu'il y a des choses, un stylo, une écharpe, ou une cravate, ou une chemise, ou un livre, ancien, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir?
Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est les livres anciens. Parce que j'adore lire, mais quand je dis livre ancien, c'est pas forcément très cher. C'est un vieux bouquin écrit il y a très longtemps, et ça va me faire plaisir, parce que je vais aller chercher vraiment une histoire que peut-être peu de gens ont lu, ou peu de gens connaissent, et puis ça me fait plaisir. Et puis il y a une chose, Pascal, qui est chez nous, c'est que 24 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants, les petits-enfants qui ont maintenant 27, 28 ans, eh bien aujourd'hui, quand ils viennent chercher chez nous, ils viennent chercher la clémentine et la crotte en chocolat. Parce que c'est la tradition qu'on leur a fait prendre dès le début. C'est-à-dire un cadeau, une clémentine, d'accord, une crotte en chocolat.
Eh bien, écoutez, merci François, je suis étonné parce que vous êtes jeune, vous avez 64 ans et vous avez déjà des petits-enfants qui ont 27 ans.
Oui. Oui, mais c'est parce que, non, mais disons qu'il y a eu un remariage. Il y a eu un remariage et les enfants sont, on va dire, sont très, faut dire qu'il fait froid en Normandie et puis faut se réchauffer.
Vous êtes bien réchauffé. 14h07, on marque une pause et là, on va appeler un auditeur au hasard. Alors, je ne sais pas qui tire ce numéro au hasard. Je voudrais peut-être que l'ami Laurent nous donnera des précisions. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole. RTL. C'est Noël avant Noël.
Il est 14h10. Alors, le principe, me dit Damien Béchiot, on appelle complètement au hasard. C'est pas un numéro tiré au sort comme la valise. Donc là, on va composer le numéro. Donc moi, je vais donner les deux premiers numéros, même les quatre premiers. Je vais dire 02 parce que c'est l'Ouest et 40 parce que c'est d'une région du côté de Nantes ou de la Baule, peut-être. Et après, c'est à vous de trouver les autres numéros. C'est le hasard complet, bien évidemment. Je n'appelle pas quelqu'un de ma famille ou un ami. De toute façon, je n'ai plus d'amis. Donc, de toute façon, je ne peux pas tomber sur un ami. C'est ce que vous êtes en train de faire, là, le numéro, par exemple?
On le fait.
Vous êtes en train de faire
on
le numéro.
On cherche les 6 d'après.
Mais ce qui est terrible, c'est que...
Le numéro que vous demandez n'est pas attribué.
Ah bon, alors si vous avez fait un numéro qui n'existe pas. Laurent, ce qui est ennuyeux, c'est qu'on devrait appeler un 06, parce que les gens, ils répondent au 06, mais... il y a peu de chances que les gens sont plus chez eux aujourd'hui, entre midi et 2, souvent, ils sont un peu en train de se balader partout. Non, on réessaye 0240 et après, si ça marche pas, on va faire un 06.
D'accord.
Alors 0240 et vous faites des numéros au hasard et on va voir si vous avez tombé, si vous avez fait un numéro qui est déjà acceptable. Oh, ça sonne. J'ai l'impression d'être faire la valise. Allô?
Allô?
Oui, bonjour madame.
Bonjour.
Eh bien, c'est extraordinaire, vous avez décroché, c'est RTL, je m'appelle Pascal Pro. Je
connais pas.
Je vais vous faire un vrai plaisir. D'abord, vous n'allez pas me croire sans doute, mais vous avez gagné 1000 euros. 1000 euros et vous êtes à l'antenne d'RTL. Écoutez les jingles. RTL.
Alors là...
Je suis sûr que ça va être difficile pour vous de nous croire, mais vous habitez où?
À Riaillé.
J'ai pas compris. À Riaillé?
Oui, Riaillé.
Ça s'écrit comment?
RIAI2LE.
Et donc, c'est dans quel département? Loire-Atlantique?
Loire-Atlantique.
Loire-Atlantique, la ville la plus proche, la grande ville la plus proche, c'est...
Saint-Nazaire, Nantes.
Eh bien, écoutez, et votre prénom, quel est votre prénom?
Mon prénom est Anita.
Anita, écoutez, alors c'est extraordinaire. Anita, vous étiez chez vous tranquillement?
Oui.
Eh bien, figurez-vous, et c'est pas rien, que vous avez gagné 1000 euros pour faire vos courses de Noël. Alors, je vous assure, c'est pas une blague, je vais vous faire réécouter des jingles de RTL.
Vous n'écoutez jamais les auditeurs ont la parole entre midi et deux?
Non.
Vous n'écoutez jamais RTL?
Non. Par contre, vous, votre voix, je vous connais. Vous avez les cheveux blancs. Je vous aime beaucoup, d'ailleurs, quand je regarde la télévision.
Ah ben, vous, alors, vous connaissez pas mon nom, mais vous connaissez ma voix et mes cheveux blancs.
Oui, oui.
Eh ben, écoutez, j'en suis content, Anita. Mais donc, c'est d'abord, si vous reconnaissez ma voix, c'est que vous savez que c'est pas une blague. Alors, effectivement, si, je fais un peu de télévision, si, mais je fais aussi de la radio. Et là, je suis à la radio sur RTL. Vous écoutez jamais
non,
RTL?
Jamais RTL.
Mais vous n'écoutez jamais les grosses têtes, jamais
non,
le matin Yves Calvi.
Bah, c'est, non.
Alors,
non,
moi, on va vous donner.
Le matin.
Pardon?
J'écoute votre émission du matin à la télévision.
Ah oui, mais ça, c'est la télé. Ça, c'est la télé. Alors, mais on va vous faire parvenir 1000 euros. Et je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, Anita.
Non, mais là, va falloir arrêter parce que...
Mais non, mais attendez, c'est formidable. Vous faites quoi dans la vie?
Je fais rien du tout, je suis retraitée.
Mais vous vous rendez compte, 1000 euros? Vous avez des enfants? Des petits-enfants?
J'ai des enfants, mais ils sont grands.
Eh bien, 1000 euros en bon d'achat. Donc ça va vous permettre d'acheter des très très beaux cadeaux et vous allez d'abord on va garder vos coordonnées parce que on vous appellera pour savoir comment s'est passé ce Noël et moi je suis très content de vous avoir eu au téléphone et puis on va essayer de vous fidéliser pour notre émission des auditeurs entre 12h30 et 14h30 tous les jours. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, que votre blague elle est rigolote.
Mais parce que vous pensez que c'est une blague?
Oui, je sais pas pourquoi.
Alors, vous savez ce que vous allez faire? Vous avez un poste à RTL tout près de vous? Vous avez une radio?
Non, j'ai pas de radio.
Bon, vous êtes toute seule dans votre maison?
Pas la radio, c'est que j'en ai pas.
Vous êtes toute seule dans la maison?
Non, je suis avec mon mari.
Alors, votre mari, il a pas, vous avez pas un poste radio?
Non, pas un poste radio.
Bon, est-ce que vous avez un smartphone?
Non plus.
Ah bah, vous avez pas de
smartphone? Ah, mais je suis de la vieille école, moi.
Bon, vous n'avez pas d'ordinateur non plus?
Non.
Bon, et en tout cas, si vous avez reconnu ma voix, c'est que c'est pas une blague.
Votre voix, je la connais, mais après, le reste...
Attendez, je vais pas m'amuser à appeler tous les gens comme ça pour leur dire qu'ils ont gagné 1000 euros, alors qu'ils ont pas gagné 1000 euros, Anita. Je trouve, franchement,
non,
d'abord,
mais
vous êtes très sympa.
Comment ça se fait que j'aurais gagné 1000 euros d'un coup comme ça, là?
Mais évidemment, mais c'est le principe aujourd'hui, depuis le début de la matinée.
Ah bon?
Nous appelons lors de toutes les émissions... Tiens, je vais vous faire écouter avec Yves Calvi ce qui s'est passé ce matin. Vous connaissez Yves Calvi?
Oui, monsieur... avec ses cheveux noirs, qui a une tête ronde.
Bon, ben voilà, il a...
c'est comme ça que je le vois.
J'adore la radio.
Vous m'excusez.
Mais je vais vous dire, Anita, vous pouvez pas... Ce moment que je vis avec vous, c'est pour ça que je fais de la radio, en fait. C'est pour précisément rencontrer quelqu'un, c'était pas du tout prévu, et c'est rigolo ce que vous dites comme tout, et en plus, c'est très sympathique. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter Yves Calvi ce matin, qui a appelé, comme vous, au hasard, un professeur qui était dans sa classe, et qui a été surpris comme vous. Écoutez cet extrait.
Allô ?
Oui ?
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour.
Bonjour, Yves Calvi, RTL. On vous appelle totalement au hasard. Et si vous décrochez, bah, tout simplement, vous gagnez 1000 euros. C'est le Noël sur RTL aujourd'hui. Je peux vous demander votre nom ?
C'est une blague ?
Non, c'est pas une plaisanterie, je vous le promets. Vous venez de gagner 1000 euros.
Vous êtes sur RTL.
Vous êtes sur RTL. Voilà, on va vous mettre un petit jingle. Bon, vous êtes
Écoutez, alors, je suis en direct, je suis en cours, je suis avec mes élèves.
Oui. Ah, c'est drôle.
C'est
vous pouvez dire bonjour, c'est RTL.
Ah, c'est drôle.
Bon, ben voilà, c'était ce matin, et le monsieur qui a les cheveux noirs et qui a la tête ronde, Yves Calvi, ben, il a fait gagner à un professeur 1000 euros.
Ah ben, c'est dommage, je ne vous ai pas écouté ce matin, autrement j'aurais vu.
Ben, Anita, on va vous prendre hors antenne, on va évidemment garder vos coordonnées, on va vous rappeler, on vous rappellera peut-être d'ailleurs demain, déjà pour savoir comment ça s'est passé. Vous allez recevoir 1000 euros en bon d'achat, vous allez pouvoir faire des jolis cadeaux. Vous avez combien d'enfants et petits-enfants?
Deux enfants et cinq petits-enfants.
Ben écoutez, c'est génial. Franchement, et puis peut-être qu'ils nous sont en train de nous écouter. Et je crois que l'émission, en plus, on peut la réécouter entièrement. Elle est sur le podcast.
Tout à fait.
Donc vous pouvez, à partir de 14h10, on a dû vous appeler. Vous verrez, l'échange qu'on a eu, ben, vous pourrez le réécouter, Anita.
Le podcast.
Oui.
Moi, que pour un smartphone, je vais écouter du podcast.
Vous êtes formidable, Anita. Il s'appelle comment, votre mari ?
Georges,
bon bah vous allez lui faire des gros bisous, c'est quand même une bonne nouvelle, 1000 euros.
Oui, vous m'avez fait rigoler, c'est gentil quand même.
Mais je vous donne, attendez, je mens jamais moi.
Non mais vous gueulez souvent la télé, ça
bah,
j'aime bien.
Oui, bah,
quand on vous écoute pas.
Bon, bah écoutez.
C'est quand même extraordinaire.
Mais je vous donne ma parole sur ce que j'ai de plus cher, que c'est pas une blague, et c'est 1000 euros qui vont à arriver vers vous. On garde vos coordonnées, c'est formidable de vous avoir eu, Anita. On marque une pause, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Olivier est avec nous, je ne vous avais pas dit bonjour Olivier.
Mais non, bonjour Pascal, 14h21.
C'était
bonjour.
Formidable, c'est vous qui avez fait le numéro d'Anita.
Oui, et le numéro non attribué aussi, c'était moi, évidemment.
Et donc, c'était complètement un hasard.
Ah, j'ai tapé complètement au hasard, Pascal. De toute façon, moi je ne calcule rien, vous savez bien. Hein.
C'est extraordinaire, donc vous la gardez bien. On l'appellera demain, Anita. Hein.
Ah, on va la rappeler demain.
On la rappellera demain.
Exactement, sur nos pages Facebook et Twitter, Pascal pour Noël. Pour Émilie, Noël, c'est une vaste fumisterie, un gouffre rare. Argent, donc elle ne le faites pas, c'est radical. Franck, à l'inverse, fait le décompte des jours depuis un mois. Il a déjà tout acheté et on termine avec Auguste. J'offre des
Auguste.
Plus beaux. Auguste,
et oui, ah, ça Auguste. C'est joli, Auguste.
Mais c'est magnifique. J'offre des plus beaux cadeaux à mes collègues qu'à ma famille à Noël. Donc j'espère que vous allez me gâter, Pascal. Quand même,
mais
c'est normal.
Je vous offrirai effectivement ce qui vous plaira.
Un peu de répartie, j'aimerais bien. Merci.
Je le sais. Christophe est là. Bonjour, Christophe. Vous êtes fabricant de jouets?
Oui, mon cher Pascal.
Ah, c'est vous qui les fabriquez ou vous les vendez ?
Eh bien, je suis fabricant de jouets français. Et nous avons une scierie dans l'ouest de la France, entre Fougères et Rennes. Et nous fabriquons des jeux d'éveil de construction, de l'édition et des jeux de plein air.
Ah, ça c'est formidable, dites donc. Et c'est vous qui avez monté cette société ?
Et c'est moi qui ai monté cette société il y a une dizaine d'années, en se disant, on va faire du jouet français... écolo et à prix accessible.
Quel est le jouet star de votre entreprise ?
Alors nous, c'est des planchettes de bois, des jeux d'éveil de construction qui permettent aux enfants de s'éveiller et de construire toutes sortes de figures, que ce soit à l'école, parce qu'on travaille beaucoup avec le scolaire, ou à la maison, quand ils ont acheté ces boîtes dans les magasins.
Et ça, ça coûte cher ?
Ça coûte une trentaine d'euros. En fonction des enseignes, que ce soit en grande distribution ou les enseignes de jouets ou sur le web. Et ça coûte beaucoup moins cher que ce qui vient d'Asie en ce moment parce qu'il y a des problèmes de transport considérables, ce qui fait que le jouet français a quand même la cote aujourd'hui.
Combien vous faites en pourcentage de chiffre d'affaires entre le 1er novembre et le 25 décembre ?
C'est globalement... 70%, on travaille pas mal l'année, mais c'est nous on commence à travailler d'ores et déjà Noël 2022, on commence à préparer nos copies pour nos amis distributeurs qui ont une tendance très très forte à rechercher du jouet français aujourd'hui et dans tous les secteurs de la distribution, du web en passant par la grande distribution et autres enseignes de jouets. Donc il y a vraiment une volonté aujourd'hui de proposer du jouet français qui est certainement dû à ces problématiques de transport que l'on a en Asie aujourd'hui.
Eh bien merci beaucoup Christophe et puis si vous me
et
permettez...
Bon souvenir de Nantes et mystère de la radio parce qu'on a des bons souvenirs Place Aristide Briand à Nantes, mon cher Pascal. En l'occurrence c'est Christophe Frenet qui est au bout du fil. Et autre mystère de la radio, voilà, nous nous retrouvons par hasard.
Eh bien écoutez, je me retrouve effectivement, je me souviens de vous, cher Christophe, bien évidemment. J'allais dire que vous aviez une jolie voix de radio, mais effectivement, c'était il y a fort longtemps et ça permet de retrouver comme ça des anciens camarades RTL, donc c'est absolument formidable. Il est 14h24 et c'est le débrief avec Laurent Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Il n'y aura ni confinement ni couvre-feu. Déclaration du ministre de la Santé, Olivier Véran, mais une annonce sur le rappel vaccinal.
Désormais, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adultes âgés donc de 18 ans et plus dès 5 mois après leur dernière injection. La vaccination en rappel pour les adultes est ouverte à compter de ce samedi.
Et notez bien dans votre agenda cette date pour le pass sanitaire.
Ce pass sanitaire de tous les autres publics, c'est-à-dire les Français âgés de 18 à 64 ans, ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans ce délai qui reste inchangé de 7 mois après la dernière injection.
La validité des tests pour le pass sanitaire sera ramenée à 24 heures. La réaction d'Émilie suite à ces annonces.
La troisième dose. Qui est pour moi, je pense, une mesure incontournable. J'attendais d'avoir le feu vert pour pouvoir enfin prendre un rendez-vous. Donc ça y est, je vais pouvoir le faire.
Et Alexandre, lui, est catégorique.
c'est une obligation vaccinale. Au bout d'un moment, il ne faut pas se cacher. Enfin, il ne faut pas déconner, ça va quand même beaucoup trop loin.
Une autre information, sinon aujourd'hui. Attention, mesdames, messieurs, nous sommes le 25 novembre.
Noël est dans un mois, on est le 25.
Avez-vous déjà commencé vos achats? Quel est le pire cadeau que vous ayez reçu?
Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez.
Non, Pierre, c'est un gilet.
Ah oui? Ah ben, bien sûr. Ah mais alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors.
Et aujourd'hui, grand jeu sur RTL pour vous offrir vos courses de Noël.
Pendant l'émission entre 13h et 14h30, un Français sera appelé au hasard pour recevoir 1000 euros.
Alors on a joué tous ensemble, déterminés, sûrs de nous. Un succès pour cette séquence qui nous attend.
Vous êtes en train de faire
on
le numéro.
Les 6 d'après.
Mais ce qui est terrible,
le
c'est que...
Le numéro que vous demandez n'est pas attribué.
Ah bon, bah alors si vous avez fait un numéro qui n'existe pas.
Bon, ça démarre mal. Seconde chance, on ne va pas lâcher comme ça.
Ça sonne. J'ai l'impression d'être faire la valise. Allô?
Allô?
Oui, bonjour madame.
Bonjour.
Eh bien c'est extraordinaire, vous avez décroché, c'est RTL. Je m'appelle Pascal Pro.
Je connais pas.
Ah oui, alors là, on est vraiment très mal. Mais oui, Anita, c'est nous, c'est RTL.
Votre voix, je vous connais. Vous avez les cheveux blancs. Je vous aime beaucoup, d'ailleurs, quand je regarde la télévision. Bah, votre voix, je la connais, mais après, le reste...
Mais attendez, je vais pas m'amuser à appeler tous les gens comme ça pour leur dire qu'ils ont gagné 1000 euros, alors qu'ils ont pas gagné 1000 euros, Anita. Je trouve, franchement, non, d'abord...
Mais c'est gagné, Anita, 1000 euros en bon d'achat avec spartoo.com. C'est Noël, avant l'heure, sur RTL. Oh,
quand j'entends chanter
C'est formidable, Anita. Vraiment, c'est de la radio magique. C'est-à-dire qu'elle habite...
Naturel.
C'est Rialier. Hein, je ne connaissais pas ce petit village près de Saint-Nazaire. Elle a gagné 1000 euros. Elle a 5 petits-enfants, je crois. 2 enfants. Donc, c'est un Noël. C'est pas rien, 1000 euros, quand
en
même,
bon d'achat,
en bon
ouais.
d'achat. Monsieur Richard.
Pas de bon d'achat.
Bah
moi.
Non. On peut
désolé.
Pas...
Oui, vous, désolé.
Vous, mais c'est des bons de sortie parfois. Et
mais... Parfois, comme c'est le cas aujourd'hui pour les 3 chers disparus de Rodica Negroyou, qu'on va surnommer l'empoisonneuse. L'est-elle vraiment ou
c'est
pas?
C'est toujours des gens sympathiques. L'autre jour, c'était le dépeceur de Montréal.
Non, mais le fait est, c'est qu'elle nie totalement ce qui lui est reproché, qu'à 82 ans, elle dépose aujourd'hui sa 3e demande de révision et elle sera l'une de nos invitées dans l'heure du crime. Tout de suite.
À tout de suite.